Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Cause Commune, l'émission conçue par Fréquence Paris Pluriel pour faire le lien entre tous les animateurs des différentes émissions politiques et sociales sur des thèmes qui font débat dans l'actualité ou dans l'histoire. Voilà. Ce soir, donc, nous réfléchirons ensemble sur les logiques qui poussent nos hommes politiques à prendre des décisions au mépris des experts indépendants et des populations locales. Et pour illustrer nos propos, nous parlerons bien sûr du nucléaire, qui est un vaste sujet, du gaz de schiste, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, et d'autres également gros projets, comme par exemple l'usine de mécanisation de la déchetterie de Romainville, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, et bien d'autres sujets encore. Très bien, alors pour débattre sur ces différents thèmes, j'ai pas mal d'invités ce soir, des différentes émissions de Fréquence Paris Pluriel. D'ailleurs, ils vont se présenter.
Alors, on peut commencer par Raoul Abdalov de l'émission Salle 101 qui s'occupe de science-fiction. On pourrait se demander ce que la science-fiction a à voir avec Cause Commune. Et bien, justement, la science-fiction décrit depuis le début, hein, depuis H.G. Wells, c'est-à-dire le 19e siècle, des mondes morts, détruits, bousillés par justement des expériences scientifiques qui ont mal tourné, que ce soit des catastrophes naturelles ou surtout industrielles pour ne pas les nommer. Et de fait, l'ASF a produit énormément de littérature qui, avec le temps et avec le recul, s'avère incroyablement vraie. C'est pour ça qu'on parle de littérature d'anticipation. Ça donnait lieu à tout un pan de littérature qui s'appelle le post-apocalyptique. Et on verra que c'est extrêmement sérieux parce que c'est très réaliste, à tel point que ça fait froid dans le dos.
Virginie, peut-être ?
Jungle des luttes, programme tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. La jungle des luttes, c'est le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et en général, on aborde justement tous ces thèmes-là, justement, de ces grands projets inutiles, nuisibles, qui se font au mépris des peuples, des communautés, des gens, des animaux, de la nature, etc., et de la société, de l'équilibre, etc. Donc on a en général la possibilité aussi de parler des apatistes qui, eux, depuis 94 s'organisent et luttent contre tous les projets gouvernementaux et donc sont la spécificité précisément d'être indépendants et justement de construire l'autonomie. Donc voilà, la jungle des luttes, on peut un peu participer ici là sur toutes ces thématiques en n'ayant pas spécialement de connaissances, on n'est pas des experts. Mais...
Merci Virginie. Patricio, peut-être, tu veux te présenter un petit
oui.
peu
Oui. Patricio Rivera Millapan, et Chronique Mapuche. C'est un programme qui se passe le lundi, dernier lundi de chaque mois, et qui parle de notre peuple Mapuche. Voilà.
D'accord. Jenny
Jenny de Vive la Sociale. Vive la Sociale est une émission qui a lieu le premier et le troisième jeudi du mois. Elle s'occupe des luttes sociales, notamment celles qui ont lieu dans le monde du travail, sur le terrain de l'entreprise, des services publics. Mais, évidemment, on essaye d'avoir un regard un peu plus large, parfois au-delà de nos frontières, en profitant de la présence de personnes qu'on connaît, qui vivent ailleurs, qui peuvent nous donner des éléments de réflexion sur ce qui se passe ailleurs dans le vaste monde. Et évidemment, on a aussi abordé parfois des questions d'ordre, comme on dit, environnemental, sans tabou, comme diraient nos décideurs.
Joël. Eh bien, Joël, donc, de l'émission Zéro Hebdo, qui est tous les mardis de 20h30 à 21h30, on traite des questions des médias libres et alternatifs. Et aussi l'actu des luttes. Donc l'actu des luttes, c'est du lundi au vendredi de 12h30 à 14h sur cette même antenne. Et là, on traite effectivement de pas mal de questions qui peuvent être aussi sociales, environnementales, voilà, donc avec des invités aussi, voilà.
Alors moi, Agnès, je ne sais pas ce que je fais là, parce que je me fais des émissions de cinéma. Non, je plaisante. Prise directe, tous les mercredis à 14h. Et effectivement, on relaye beaucoup de documentaires, notamment. S'il y a des fictions intéressantes sur le sujet, why not? Mais franchement, ils ne s'attachent pas trop à faire des choses de cet ordre-là. Donc j'ai bossé un peu sur des choses qui sont visibles sur Internet, et je vous en parlerai.
Oui, donc moi c'est Gilles, donc c'est une émission le vendredi soir de 20h30 à 21h30 sur le chômage, la précarité, la misère, etc. Donc on essaye de réfléchir sur la façon dont les gouvernements, enfin surtout nos gouvernants, font en sorte que le chômage perdure, puisqu'il y avait peut-être des solutions, mais qui n'ont pas été prises depuis 40 ans. Voilà. Donc pour démarrer cette émission, ça va être un débat, hein, puisque, comme tu le disais Virginie, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous sommes des gens convaincus, et puis nous avons aussi nos idées, donc on va les défendre à ce micro. J'aimerais commencer sur une façon générale. D'une façon générale, est-ce que vous considérez quand même que les logiques, les jeux qui sont prises, les jeux politiques et économiques qui sont prises par nos politiques, sont en fait inhérentes à un état d'âme, un état d'esprit plus ou moins de droite ou de gauche? Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre droite et gauche dans ce cas-là?
Dans le sens qu'il y a une remarquable continuité entre la gauche et la droite dans la pervicacité avec laquelle ils ont continué à faire des choses sur la tête des gens directement concernés sans demander l'avis de personne. Je crois que l'exemple type est la question du nucléaire. Ça a commencé après la guerre avec les militaires qui voulaient leurs bombes. On leur a donné. Et ensuite, on a installé le nucléaire civil et on a utilisé le nucléaire civil surtout pour éviter qu'on parle du nucléaire militaire et pour faire du combustible pour les militaires. Ça, c'était le point de départ. Je schématise beaucoup. Mais en gros, on a fait tout ça sans demander l'avis de personne. Il n'y a jamais eu une discussion et on nous présente ça comme le consensus français sur le nucléaire. C'est un consensus par la négative, puisque personne n'a jamais demandé l'avis des populations, ni sur le militaire, ni sur le civil. C'est-à-dire sur cette espèce de dissémination de centrales nucléaires sur le sol français qui fait de la France le plus nucléarisé au monde par rapport à son espace et à la population et à la quantité d'énergie électrique produite en pourcentage par ce type d'installation. On est à peu près à 75% de l'énergie, ce qui est un choix précis pour empêcher toute discussion sur l'idée, même sur l'idée d'une sortie nucléaire. Et en réalité, les faits nous montrent comme c'est possible d'arrêter dans un délai très court les centrales. Le Japon nous donne un exemple très clair et très net. La seule question qui se pose est: faudra le faire avant ou après l'accident. Et nos décideurs ont décidé de le faire après l'accident, évidemment.
Merci, Jeannie. Qui veut intervenir sur le propos du nucléaire?
Oui, l'accident qui évidemment n'arrivera jamais. Ça, c'est une des choses qu'on entend évidemment le plus régulièrement et qui, pour ma part, me frappe le plus. On a eu l'accident de Three Mile Island qui venait d'une centrale nucléaire qui était mal faite, mal conçue. On a eu ensuite l'accident de Tchernobyl qui était dû principalement au fait que les communistes étaient incapables, bien sûr, de gérer une centrale nucléaire et que de fait c'était du mauvais matériel, c'était mal fait. Bon, c'était la Russie. Voilà, c'est logique qu'ils aient eu un accident parce que vraiment ils ne savaient pas faire. Oui, l'URSS, pardon, pardonnez-moi, l'URSS. Ouais. Et après Tchernobyl, donc, on a eu récemment Fukushima avec ce que ça implique. Et là, c'était parce que, bon, c'était pas vraiment non plus la faute du nucléaire, c'était simplement parce qu'il y avait un gros tsunami. Qui avait suivi donc bien sûr le tremblement de terre du mois de mars et à chaque fois donc ça n'était jamais la faute du nucléaire, c'était juste l'environnement qui faisait que oui, ces accidents pouvaient arriver, mais en France ça n'est pas possible parce que nos centrales nucléaires sont bien conçues, parce que elles ne sont pas gérées à la soviétique et qu'elles elles sont bien faites, et parce que les tsunamis, les tremblements de terre, ça n'arrive pas en France. Ça, c'est le constat qui, effectivement, rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur cette espèce de pseudo-consensus qu'on nous impose et qui, en quelque sorte, nous empêche de parler.
On nous a aussi, j'ai entendu une fois à l'Assemblée nationale, que les Français aimaient le chauffage électrique. Je suis désolée, mais je vous signale que dans toutes les chambres de bonne, le gaz est interdit. Interdit. Et on a forcé les gens à s'électrifier avec des appareils qui bouffent un taux incroyable de mégawatts. Et c'est nous, on aime ça. Mais franchement, des fois, on n'a pas le choix.
Et d'ailleurs, il faut rappeler que les offices HLM ont équipé leurs logements mal isolés avec des installations électriques.
Oui, c'est vrai.
En collaboration, évidemment, avec EDF.
Oui. Ceci dit, au niveau des coûts, là, si on parle des logements, au niveau des coûts, maintenant, ils sont tellement assaillis, les logements sociaux, qu'il y a quand même, pour moi, avoir travaillé avec des architectes, là, ceux qui gagnent les concours, c'est quand même ceux qui réussissent à avoir des systèmes énergétiques de haute qualité environnementale. Et donc, du coup, d'avoir des machines à gaz en haut, etc., où tu recycles. Donc, enfin, je pense que ça bouge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge pour des histoires financières. Pas du tout pour des idées de principe en se disant il faut faire reculer le nucléaire. Et je pense aussi que, précisément, ce que l'habilité des pouvoirs publics, c'est justement de nous faire peur. C'est-à-dire que l'un des arguments... Donc, tout à l'heure, on parlait du fait que c'était... sans risque chez nous, parce qu'on est des pros et des experts. Je crois aussi surtout qu'ils insistent sur le fait que pour une indépendance énergétique, ce qui est quand même la base d'un État, qui doit assurer quand même un certain nombre de choses, dont l'énergie, je pense que l'important, c'est précisément d'avoir, de menacer les gens de « on va être dépendant d'autres pays pour notre énergie ». Donc ça bloque un petit peu, je pense, l'esprit des gens sur « mais qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les alternatives au nucléaire ?» Enfin, je pense que il faut réfléchir justement à toutes les alternatives.
Mais justement, en termes d'alternatives, moi, j'ai quelqu'un de ma connaissance qui m'a expliqué qu'il avait isolé son appartement. Il n'est pas du tout chez EDF, hein, enfin, pour, ni au gaz, ni à l'électricité. Et donc, il a isolé avec de la ouate, donc une espèce de coton qu'on achète en pharmacie, là, enfin, en quantité bien sûr suffisante, hein, qu'il a mis contre son mur, et ça marche. Il est descendu chez son voisin, il a mis à fond sa musique, il avait fait ça pour une pièce. Et ça marche. Et donc, il a fait ça pour toutes les autres pièces. La ouate, et puis il a fait du liège aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Alors, évidemment, c'était en grande quantité hein, qu'il en a pris. Et puis, c'est finalement pas si cher que ça. Alors, il y a certainement un coût. Hein, mais c'est beaucoup moins cher. Et donc, ça peut créer des emplois. Ça allait créer des emplois presque... voilà.
Oui, sauf que les assureurs vont se mettre là-dedans. Et s'il y a le feu chez lui, il ne sera pas remboursé. Désolé, mais...
Oui, il y a certainement des certainement des... Bien sûr.
Il y a quand même cette question aussi, je pense qu'on y viendra aussi dans le cours de l'émission, c'est comment aussi les syndicats sont entrés dans la danse aussi sur ça et sur d'autres sur ces autres questions, puisque derrière ça aussi il y a de l'emploi, on est toujours dans cette chose, dichotomie un petit peu de qu'il faut que les gens puissent travailler, mais même là, puisqu'on le voit bien, pendant assez longtemps, la CGT et le Parti communiste étaient vraiment pro-nucléaire. Ils sont peut-être un peu moins aujourd'hui, mais peut-être toujours encore. Donc, on est quand même sur des incohérences assez fortes. Et on peut se demander aussi jusqu'à où on peut accepter ce genre de situation. C'est-à-dire, c'est un peu le chantage... ou à l'emploi, ou à l'environnement. Donc, à un moment aussi, peut-être que les syndicats, certains syndicats vont réfléchir, et c'est un peu la question qu'on peut trouver sur le gaz de schiste aussi, puisque ce midi, on a eu dans l'actu, effectivement, une personne sur le... pas un syndicaliste, hein, mais sur la question du gaz de schiste, et c'est vrai que cette question, on a un peu échangé cette question, et c'est vrai que pour l'instant, à part peut-être le syndicat Sud, qui a un petit peu une réflexion sur ça, et une réflexion quand même assez engagée, mais pour les autres syndicats, on n'en est pas encore là. Et là, ça pose vraiment une question, parce que quand on dit aux travailleurs si vous voulez continuer à vivre, il va falloir continuer à fabriquer du nucléaire ou du gaz de, ou peut-être du gaz de schiste, parce qu'on retrouvera, je pense, les mêmes questionnements, c'est-à-dire eh bien voilà, il y a des emplois à créer aux États-Unis, il y a effectivement des lobbies sur ces questions-là qui ont prêché que ça créait 600 000 emplois. Mais voilà, effectivement, faut quand même se souvenir que les questionnements et les réponses que cherchent les États, ils vont les chercher effectivement chez Total, chez tous ces gens-là qui ont leurs spécialistes, et leurs spécialistes pour eux, c'est il faut aller vers effectivement ces énergies-là. Comme un peu le titre, le sous-titre de l'émission l'entend, c'est les projets inutiles et nuisibles. Et là, on est dans ces variables-là.
Alors, moi, j'ai quand même une question générale à poser à tout le monde. C'est comme on voit que tous les autres pays en dehors de la France sur le nucléaire reculent, certains même se sont carrément arrêtés, hein, on a vu qu'après Fukushima, les centrales se sont arrêtées, certaines sont reprises depuis, hein, bien sûr, mais que beaucoup de pays comme l'Allemagne, par exemple, ont arrêté leur... bon, ça va mettre du temps, hein, pour voilà, ça va mettre 25 ans pour le démantèlement, mais bon, il n'y a plus de réacteurs qui fonctionnent, enfin, dans mes souvenirs.
La Suisse également.
La Suisse aussi, voilà. Comment se fait-il que la France, elle, reste sur son quant à soi et avec un bonnet d'âne, en fait, non, je ne veux pas, je continue à faire du nucléaire alors que tout le monde a arrêté.
Parce qu'on vend des centrales à l'étranger.
Ouais, est-ce que c'est qu'un intérêt économique?
Ça rejoint je pense.
Oui, d'accord.
Ça rejoint, à mon sens, ce dont on parlait tout à l'heure sur le fameux consensus. Je pense que le nucléaire, c'est clairement pour moi ni de droite ni de gauche, puisqu'on est dans cette espèce de logique d'indépendance énergétique qui a été tout simplement voulue et prenée par De Gaulle, et que c'est cet héritage-là qu'on se prend depuis pas mal de temps, mais qui a été bien sûr reconduit.
Enfin, on n'est pas vraiment indépendant, puisqu'on va chercher l'atome, au Niger, quoi.
Et c'est bien sûr, on essaye de l'être, et oui, c'est ce mythe-là, qui fait perdurer, entre autres, dans l'esprit des gens, je pense, la soi-disant nécessité du nucléaire.
D'accord.
Alors, pour baisser un peu la consommation du nucléaire, n'achetez pas de climatiseur. Il n'y en a pas besoin en France. Hein. Il fait 36 une journée dans l'année, franchement.
D'accord.
Mais bon, cette histoire d'indépendance est un des nombreux arguments bidons du nucléaire. Parce qu'il n'y a pas d'uranium en France. Donc, ils vont les chercher au Niger. Ils vont le chercher au Kazakhstan.
Exactement,
ouais. Des démocraties, c'est bien connu d'ailleurs. avec des méthodes dont on a beaucoup entendu parler dans les discours sur la France-Afrique, qui perdurent justement autour de l'uranium et de l'exploitation qui se fait des gens qui travaillent autour de l'uranium. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un amoncellement de discours bidons qui sont censés être des arguments sur la question nucléaire, et je pense que il vaudrait la peine de les regarder même rapidement. Par exemple, déjà la question essentielle, quand on parle du lobby nucléaire, on parle évidemment des militaires, du monde des ingénieurs des mines, qui décident ce genre de choses, et du lobby du béton, parce que la construction est ce qui fait l'intérêt énorme du nucléaire, comme on peut le voir par exemple avec les constructions autour de l'EPR de Flamanville.
Absolument.
Où il y a eu quelques petits
soucis, ouais.
Dépassements
choses qui ont été dévoilées.
Oui.
Et ensuite, on nous rebat les oreilles sur la question de l'emploi, mais ça sert à quoi cet emploi? Parce que si c'est de l'emploi pour produire du cancer, des possibilités d'accidents nucléaires, la possibilité de détruire pendant plusieurs siècles des lieux où les gens pourraient habiter et qui seront interdites, comme le site de Tchernobyl.
Absolument.
Aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas de sens. C'est de la folie.
Oui. En plus, c'est pas tant que ça d'emploi. T'avais pas les chiffres, toi?
J'avais les chiffres,
sans compter que le revers de la médaille est que, et tout le monde le sait, que les énergies dites renouvelables produisent beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus utiles et beaucoup plus proches. C'est ça aussi un élément important, plus proche de ce qui pourrait être directement concerné par l'utilisation de l'énergie. Donc, plus loin du pouvoir des décideurs et plus proche du pouvoir de décision des gens directement concernés, qui est aussi un élément qui joue aujourd'hui en faveur du nucléaire, parce que ça sert aussi pour quadriller l'ensemble de la société. Il ne faut pas oublier que le nucléaire marche parce qu'il y a une circulation généralisée de matières radioactives sur le sol français, et jamais les populations concernées sont informées de tout ça. De temps en temps, on a eu ces deux dernières années un peu d'informations là-dessus concernant les trains de déchets nucléaires, surtout parce qu'ils venaient de l'étranger d'ailleurs, et donc on savait, les antinucléaires d'autres pays ont informé certains membres de Sudrail qui ont passé l'information, mais on se borne à parler des questions de déchets. En réalité, ce n'est pas la question des déchets, c'est la question de la totalité des matières radioactives.
Absolument.
Dont, en général, on ne parle pas. Oui. Et, dernière chose, l'utilisation que le lobby nucléaire a fait de la question du réchauffement climatique. En utilisant cet argument, d'une façon tout à fait artificielle, on a transformé l'énergie nucléaire en saloperie et en énergie poubelle. On nous la vend comme une énergie propre. Au point que, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, évidemment, on l'a sorti
oui,
des problèmes d'environnement parce que c'était une énergie propre. Donc, c'était même pas la question, même pas le problème d'en parler.
Merci. Alors, merci Gianni. Alors, Patricio, toi, tu es chilien.
Ah oui. Oui.
Ah, une petite pause. Merci Cyril. Oui.
Ouais.
Quand l'homme a débarqué, la terre était bleutée, la terre était bien ronde. Sous son scaphandrier, il a bien observé, regardé à la ronde. Quand l'homme a débarqué, il a fait des relevés, effectué des mesures. L'homme a fait des calculs, des opérations, il n'était pas très... Quand l'homme a déboulé, il y avait dans son regard quelque chose d'inquiétant. Quand l'homme a débarqué, il y a eu comme un froid, il y a eu comme un blanc. Sur le chemin du destin, il est un peu fierot, dans sa petite auto, qui navigue à vue, t'as l'air tout perdu, je t'enverrai bien paître, pensait le GPS en regardant son maître.
Alors, pas facile pour autant de choisir un GPS, car plusieurs éléments sont à prendre en compte. D'abord, l'appareil lui-même, sa taille, son poids, sa vitesse de calcul. Ensuite, la cartographie nationale, européenne ou internationale. L'interface graphique, qui doit être lisible et pratique. Et enfin, la prise en compte ou non, en temps réel, des bouchons. Il y a les GPS amovibles, dont les prix sont en chute libre. Mais si vous êtes allergique aux ventouses collées sur les pare-brises, eh bien plutôt qu'un GPS amovible, vous pouvez envisager l'achat d'un système à intégrer directement dans le tableau de bord, si votre véhicule n'en possède pas déjà un. Les voitures récentes permettent en effet d'installer des GPS à grand écran à la norme double DIN. Longtemps très cher, ces équipements devraient voir leur prix baisser prochainement, notamment avec la sortie d'un modèle signé Pioneer, qui risque de bouleverser le marché à moins de 1 500 €, ce qui n'est pas donné, mais ce qui est quand même beaucoup moins cher que ce que l'on trouve aujourd'hui. Avantage d'un système intégré, eh bien en plus de la navigation par satellite, cela remplace avantageusement votre autoradio. Certains appareils font également office de lecteur de DVD, à ne pas utiliser en roulant évidemment, et même d'ampli sans fil pour le téléphone portable. En revanche, les systèmes intégrés sont plus compliqués à mettre à jour car il faut attendre les DVD annuels de cartographie. Mais cerise sur le gâteau, sur ce genre d'appareil, on peut même connecter une petite caméra de recul pour faire des créneaux sans risque d'emboutir la voiture qui se trouve derrière.
Info 13h30, le journal Alexis Fricker.
32 militants anti-OGM sont jugés depuis ce matin devant le tribunal correctionnel d'Orléans. En août dernier, ils avaient détruit un...
Eh oui, c'était une petite chanson gag faite par des copains qui étaient donc à Notre-Dame-des-Landes qui luttaient contre l'implantation d'un aéroport gigantesque et inutile puisqu'il y en a un deuxième qui fonctionne mais qui a 75% de sa capacité. Donc arrêtons les conneries, merci messieurs. Donc on reprend cette émission Cause Commune avec toute l'équipe des super animateurs des fréquences parapolaires. J'avais oublié de citer bien sûr l'incroyable Cyril de Zoom Écologie qui est à la technique. Et voilà, avec Zéro Hebdo, qu'on ne présente plus parce qu'il est souvent là avec nous pour faire nos techniques et parler au micro. Bien, alors on va reprendre sur le nucléaire puisque Patricio voulait... tu es chilien Patricio aussi
Oui.
C'est ça Et tu es vulcanologue aussi? Tu t'occupes des...
Je fais la sismologie et la vulcanologie.
D'accord.
Et à la base, je suis ingénieur de mines.
Oui.
Et pendant des temps, longtemps, qu'on a intéressé dans ces problèmes dans notre pays. Les problèmes nucléaires se présentent actuellement comme quelque chose d'effet. C'est-à-dire que la mondialisation nous amène que des pays intéressés à produire de l'énergie dans notre pays, et surtout un pays qui est tellement sismique qui peut provoquer des catastrophes pires que celles de Japon. Pour savoir qu'à chaque jour, il y a 10 ou 12 sismes sensibles qu'on peut sentir par jour. Et des sismes, dans chaque année, ça peut avoir entre 5 et 7 degrés de l'escale Richter, de 4 ou 5 sismes de cette magnitude. Et tous les 4 ans, il y a un sisme qui supère les 8 degrés de l'escale Richter. Et de l'escale, pardon, de Richter. Et le dernier sisme, ça a provoqué pas autant de dégâts des victimes humaines, mais si dans le, de tout ce qui est construction ou même dans la terre même, c'est avec les tsunamis qui a dévasté une grande quantité de la zone qui était habitable ou de la zone qui productive. Bueno, pour arriver à ce problème, je voulais aussi parler des problèmes qui provoquent les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, et ça vient de l'histoire, hein, tous les essais nucléaires qui venaient au Pacifique Sud, et ça provoquait un affaiblissement de la couche de la plaque de Nazca. Première chose. Deuxième chose, il y a une grande concentration nucléaire dans cette région, ce qui provoque des mouvements sismiques qui amènent à rentrer dans la plaque continentale. C'est-à-dire que ça bouge tellement de 1 cm ou 8 cm et que c'est énorme.
Quand tu parles de concentration nucléaire, ça veut dire qu'il y a une zone où il y a plusieurs centrales les unes à côté des autres, ou ça veut dire que c'est une grosse centrale qui émet sur, par exemple, sur 20 km beaucoup de...
qui pollue non, sur 20 km. C'est justement les essais nucléaires qui ont été provoqués
par... Ah, c'est des essais nucléaires, d'accord.
Pendant des années, le dernier qui était pendant la période Chirac, je crois.
Oui, d'accord.
Voilà, et c'est ça, c'est... Et ces déchets nucléaires aussi qui sont lancés au fond de la mer, parce que non, pas tous les déchets nucléaires sont traités.
Oui, bien sûr.
À La Hague ou ailleurs. Mais aussi, il y a une grande enquête actuellement qui c'est possible qu'ils se fassent jeter dans les volcans. Et alors, c'est la dernière explosion d'un volcan au sud du Chili, le volcan Chaitén. Et les cendres étaient contaminées avec plein de poussières nucléaires, alors, avec beaucoup de concentration de radioactivité. D'accord. Et ça aussi, peut-être ça a été en Islande. En Islande, quand le volcan a explosé, il y avait la poussière, et aussi il y avait des concentrations de radioactivité. C'est pour ça que pendant 10 jours, ils ont arrêté les avions de voler par toute l'Europe. Ils nous ont caché la vérité. Pourquoi ils disent pas la vérité? Ils disent seulement que la poussière, les cendres, il peut provoquer une catastrophe d'un avion. Mais pas seulement ça, c'est aussi parce qu'il y a de radioactivité dans l'air.
C'est très bien. Donc merci beaucoup. Toi tu habites là-bas ou maintenant tu habites en France?
Non, maintenant j'habite en France.
Et oui. Tu as des nouvelles des gens qui habitent sur place là-bas ou...
Chaque année je fais 5 mois de je parcours tout le pays.
D'accord.
Et justement je concentre l'information de ce qui se passe dans les mines, pas seulement les trucs nucléaires, sinon aussi sur les mines. Et sur la concentration des minéraux qui sont comme uranium, et vanadium, etc. et lithium. Le Chili concentre un tiers de la réserve mondiale de lithium.
D'accord.
Alors il y a beaucoup de pays qui sont intéressés au lithium. Ainsi comme l'uranium, à tel extrême qu'ils veulent déchirer un lac entier, et qui il est dans la région de Hualmapu, de territoire mapuche. Alors ils vont dessécher un lac pour exploiter l'uranium. Alors ça arrive à la folie de...
Dans votre pays, est-ce qu'il y a une contestation assez forte? Est-ce que les gens se manifestent,
oui,
se révoltent, etc.?
Oui, justement, oui. Les Mapuches, justement, l'autre fois, ils ont fait une chaîne humaine autour des lacs,
oui,
pour pouvoir protester sur ça. Alors, Areva, c'est le principal exploitant qui va arriver pour exploiter l'uranium. Et entre autres, c'est la signature entre Sarkozy et Piñera, l'actuel président du Chili.
Est-ce qu'ils peuvent se pourvoir en justice par rapport aux problèmes qui leur sont imposés? Est-ce qu'il y a des recours?
Et seulement des recours internationaux. Nous, on a mené ça aux Nations Unies. Et il y a des Mapuches qui sont venus justement à la, comment ça va, la Convention de Genève pour les droits de l'homme. Ils ont été à l'UNESCO la semaine dernière pour signer la possibilité de que les lacs Geugeu soient traités comme patrimoine de l'humanité. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Mais je pense que c'est justement là le problème, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver qu'on est vraiment très important au-dessus de tout le monde, au point d'être patrimoine de l'humanité, oui, pour éventuellement arrêter un projet. Quand on parle justement au Niger des mines d'uranium, ben voilà, c'est des zones touareg. Donc en fait, nous de loin, on voit que du désert. En fait, il y a des gens qui vivent sur ces territoires. C'est rien que du sable, mais c'est leur lieu de vie. Et donc, je pense que effectivement, eux, comment ils vont pouvoir prouver qu'ils sont patrimoine de l'humanité et que leur sable vaut de l'or pour eux, leur vie, etc. Enfin, pour eux, et pas du point de vue des politiques.
Eh ben, il serait temps, parce que il y a eu un documentaire justement sur des Touaregs que j'ai relayé cette année. Et un des Touaregs, et j'ai appris dans ce documentaire que Areva s'était arrogé une partie du territoire Touareg sans problème.
200 concessions ils ont sur.
Et c'est honteux, c'est vraiment. Mais eux, ils n'ont rien reçu en retour, bien sûr.
Et comme une chose, quand même, si toutes ces compagnies et autres. On le voit sur le nucléaire, on le voit sur toutes sortes de constructions. En même temps, elles se sont pas imposées toutes seules. C'est là où il faut, je pense aussi l'intérêt de la discussion aussi pourrait s'élargir un petit peu, puisque on voit bien que si elles ont tout ce pouvoir, c'est que à un moment il y a des politiques qui leur ont donné certains accords pour le faire. Ça, elles l'ont pas fait complètement seules. Et moi, je pense qu'effectivement, les consultations, la plupart du temps, la population est très très peu consultée. Sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est assez flagrant, puisque effectivement, il y a toujours, et derrière ça, il y a toujours cette course au développement, puisque là aussi, on est à la compétition, parce que là, on n'y échappe pas. Et effectivement, bah, il faut le plus grand aéroport de ça, il faut la centrale nucléaire la plus puissante, et tout ça est fait aussi avec l'accord, mais ça peut être parfois des députés, des maires et tout ça, parce que moi je pense qu'il faut pas non plus déconnecter certains maires, effectivement, comme par exemple le maire du Chefrenne dans le Cotentin ont d'autres positions, mais la plupart des élus à Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs sur cette question-là, les choses ne sont pas si évidentes que ça, parce que publiquement certains élus effectivement disent nous l'aéroport on n'en veut pas, mais après officieusement c'est autre chose, parce que il y a des retombées, on parle de retombées économiques et autres, et effectivement les choses n'arrivent pas comme ils ne s'installent pas comme ça seuls.
Oui, c'est toujours le même problème. Donc moi j'ai peut-être un début de réponse à la question de savoir si pourquoi les gouvernements aident les grands industriels à imposer leur vision à des tribus ou à des populations locales un petit peu éparses et qui est méconnue par le grand public, etc., mondial, c'est qu'effectivement c'est bonnet et blanc bonnet, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les intérêts économiques qui sont en jeu, effectivement, voire des intérêts politiques, parce que on sait que les gouvernements dans les dictatures se font ces deux fonds. Ça peut être les services secrets, ça peut être n'importe qui place et qui déplace. Et donc tout ça, c'est des problèmes de gros sous contre l'intérêt général, contre la santé publique, parce que c'est effectivement c'est le problème de la santé qui est mis en cause dans cette histoire. Que ce soit l'aéroport, que ce soit le schiste ou que ce soit le nucléaire, c'est le problème principalement de santé morale et physique, mais même morale, je veux dire.
Il y a des choses d'ailleurs qui font assez froid dans le dos par rapport à ça, c'est notamment ces pays, souvent dans le Côte Sud, qui sont en dramatique manque d'argent, qui sont gouvernés par des élites corrompues, enfin bref, qui sont évidemment tous démocratiques et qui acceptent contre argent nos déchets. Déchets qui sont ensuite tout simplement mis dans la nature, en pleine nature, quelque part, pas traités, évidemment pas surveillés. Enfin bref, c'est le truc qui est le plus effrayant, c'est que. Ça s'est pratiqué un petit peu en Russie soviétique. évidemment pendant la guerre froide, où les quelques sous-marins nucléaires qui commençaient par fuiter un petit peu trop étaient entassés dans des ports à pourrir, réacteurs quasiment à ciel ouvert. Et bon, on retrouve ce genre d'idée en Afrique qui est vraiment, est effrayante.
Patricio.
Oui, c'est justement, et comme c'est une situation géopolitique et où il y a des satellites à l'Empire, dans ce cas aux États-Unis, et Obama, bien sûr, avec Piñera, ils ont signé aussi pour l'installation nucléaire au Chili. Mais que les fins ne sont pas seulement économiques ou de donner énergie. Aussi, c'est une région qui actuellement, il y a beaucoup de changements. L'Amérique du Sud, actuellement, on voit que, comme l'Argentine, le Brésil, qui sont des grands pays, il y a des gouvernements gauche ou centre-gauche. Et le gouvernement chilien, c'est extrême droite. Et oui, c'est pour ça que les États-Unis ont choisi le Chili, la Colombie et le Mexique pour faire des installations de tel type, d'installations nucléaires. Alors, c'est-à-dire, ils veulent toujours contrôler cette région du monde. Et ils peuvent s'échapper, bien sûr. Et actuellement, ce gouvernement, il gouverne avec un 23% de la population qui a voté pour Piñera. Le reste, ils veulent plus savoir d'un gouvernement de droite, mais non plus de gouvernement soi-disant de gauche, parce que le dernier gouvernement de Madame Bachelet, c'était catastrophique. Alors, on peut pas dire qu'elle pourrait changer les choses, même s'il revient au gouvernement.
Vas-y, Virginie.
Je voulais juste rebondir sur la question des déchets qu'on envoie justement très loin de chez nous. Toutefois, j'en profite pour rappeler qu'en France, il y a quand même le projet d'ensevelir des déchets radioactifs dans le nord de la France, à Burnes. Donc j'en profite pour passer le message, puisque c'est donc en France tout près de chez nous. Il faut quand même peut-être essayer de solidariser pour ceux qui veulent, avec ceux qui luttent actuellement contre l'enfouissement de ces déchets, ce qui résoudra pas le problème, parce qu'ils vont essayer de les enfouir autre part, etc. Donc en fait, on est quand même sans fin avec cette histoire des déchets qu'on n'a pas réglés. Et donc indépendamment de la question de quelles autres énergies, il y a aussi l'idée de ces déchets qui nous touchent du coup aussi en plein fouet, même si on en bazarde un peu partout.
Est-ce que peut-être à ce moment de la discussion, on pourrait pas passer le petit son que...
Si, je pensais justement qu'on pouvait éventuellement...
Oui, on peut présenter effectivement la gestion de la catastrophe parce que ça nous intéresse en premier chef. Le son qu'on a récupéré, c'est une interview d'Alain Carignon en 1986. Alain Carignon, il était ministre délégué à l'environnement du premier gouvernement de la cohabitation. Hein, c'était Jacques Chirac, le premier ministre, souvenez-vous. C'était François Mitterrand, le président de la République. Le 25 avril 86, le réacteur de Tchernobyl, l'un des réacteurs de Tchernobyl, explosait. Et là, Alain Carignon donc est interviewé par un journaliste qui n'est plus en activité, c'était sur Antenne 2 à l'époque, c'était Hervé Claude, le journaliste. Ça dure à peu près presque 6 minutes, vous allez entendre ça. Et on est vraiment dans c'est tout au début du mois de mai 1986, et on est dans la pleine période de Tchernobyl où, évidemment, vous le savez, le nuage a évité consciencieusement les frontières de la France. On est bien d'accord que la radioactivité ne s'est pas du tout étendue sur notre territoire, et la preuve avec Alain Carignon, qui a eu par la suite une brillante carrière politique, on en parlera après, puisqu'il a évidemment été condamné pour diverses choses, qu'on se fera un plaisir de rappeler.
Effectivement, voilà beaucoup de questions. Alors avec nous, en direct de Grenoble, Alain Carignon. Vous êtes ministre de l'Environnement. Monsieur Carignon, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment expliquez-vous que les Français étaient si mal informés dans cette affaire? Parce que nous, journalistes, nous avons essayé de savoir et on nous a donné des informations fausses.
Et je crois qu'il faudrait d'abord peut-être rappeler des choses très simples. Il y a, au fond, deux choses. Il y a le service de sûreté nucléaire, qui dépend du ministre de l'Industrie et qui concerne le contrôle des machines, qui est un service à la disposition également du public. Et puis, il y a le service de contrôle de la radioactivité, pour simplifier, qui dépend du ministère de la Santé, et qui est le service du professeur Pellerin, qui a été souvent mis en cause en matière d'information.
Ça veut dire, monsieur le ministre, que vous occupez de l'environnement, mais ça ne dépend pas de vous, tout ça?
Alors, attendez, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'information a été mise en cause, jusque-là, le thermomètre, c'est-à-dire l'instrument qui permet de mesurer la radioactivité, ne l'a pas été. Parce qu'en France, il y a sur le territoire 130 thermomètres de mesure de la radioactivité qui mesurent la radioactivité dans l'air, dans l'eau, dans le lait, et qui la mesurent en permanence, c'est-à-dire qu'il y ait Tchernobyl ou qu'il n'y ait pas Tchernobyl. Donc, on a un instrument de mesure qui est considéré comme fiable en France et en Europe. C'est un élément très important parce que ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays où il y a, on le voit bien, une certaine cacophonie à l'intérieur même des pays.
Donc, mais pourquoi n'a-t-on pas dit que la radioactivité va augmenter, tout simplement?
Alors déjà, les instruments de mesure ont diffusé tous les jours depuis le 28 avril, tous les jours en fin de soirée, vers minuit, les services professeurs Pellerin ont diffusé les chiffres. Et puis, samedi, enfin hier exactement, le professeur Pellerin a pu présenter une carte qui est la première carte coordonnée du taux de radioactivité publié par un pays européen, parce que pour la publier, pour des raisons techniques, il faut un certain délai, puisqu'il faut que la radioactivité naturelle ait été prise en compte. Donc elle a été publiée en France hier.
Hier, 15 jours après.
Ah non, mais quotidiennement, les chiffres ont été publiés.
Alors comment expliquez-vous que les Français ne l'ont jamais su?
Ah bah écoutez, c'est aux médias de répercuter ces chiffres.
C'est nous qui n'avons pas fait notre travail,
tous les jours. Et ils ont été diffusés. Maintenant, je vais ajouter tout de même quelque chose sur ce problème de l'information qui est capital. Il est capital parce que je crois que les Français sont majeurs, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître. Je crois que tout le monde s'accorde à penser, d'ailleurs le reportage vient de le montrer, que les taux tels qu'ils ont été, ils se sont développés, les taux de radioactivité ne sont pas dangereux. Suivant les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé ou suivant les normes d'Euratom, dans les deux cas, les taux tels qu'ils sont déterminés en France ne sont pas dangereux. Mais se pose le problème de l'information et il faut tirer l'expérience, n'est-ce pas, de ce qui vient de se produire. Je crois que dans tout événement, il faut en tirer la leçon. D'abord parce que un tel accident peut se reproduire. Il peut se reproduire parce qu'il y a, il faut le dire, 25 centrales à peu près du même type que Tchernobyl en URSS, qu'il y en a dans les pays de l'Est. L'incident peut aussi se reproduire en Europe. Bref, donc il
faut... Alors est-ce qu'on sera mieux informé à l'avenir?
Alors, moi, je propose, puisque nous avons des thermomètres, des instruments de mesure qui sont qualifiés, je propose qu'il y ait une cellule de coordination de l'information qui soit organisée, qui bénéficie des informations de l'industrie et de la santé, et qui nous permette, si un incident de ce type se produisait, d'informer de façon coordonnée les Français avec tous les éléments possibles, car je crois qu'en la matière, surtout s'il y a des mesures de protection à prendre, l'information est un élément capital.
Ce serait une haute autorité de l'information nucléaire, comme le réclament les écologistes, par exemple?
En tout cas, il faut que, je ne sais pas sous quelle égide et sous quelle forme, il faut que cette coordination se fasse, car je crois que nous en avons les moyens en France.
Alors, tout de même, il y a déjà donc une catastrophe à Tchernobyl, il y a des informations qu'on aimerait connaître. Par exemple, est-ce que les produits alimentaires en France ont subi la radioactivité? Est-ce qu'il y a des produits, par exemple, qui ont été surgelés et qui donc garderaient cette radioactivité? Est-ce qu'on va savoir tout ça?
Vous avez les mesures qui ont été diffusées hier prouvent que donc c'est le sud-est, c'est l'Alsace-Lorraine, c'est un peu l'ouest qui ont eu des taux de radioactivité plus élevés et qui sont, je le répète, pour l'instant, je crois que c'est admis par tous, bien en dessous, n'est-ce pas, des taux à partir desquels il y a danger, mais largement en dessous, 5, 10, 100 fois en dessous. Des taux de danger. Donc...
Mais alors les Allemands, par exemple, ont pris des mesures. Il suffit de voir en Alsace, par exemple, d'un côté du Rhin, il y a des mesures assez strictes de protection, de prévention. De l'autre côté, rien du tout. Ça vous semble normal?
Vous avez, d'ailleurs, la communauté économique européenne et le reportage qu'on vient de voir le prouve. Maintenant, un certain accord qui doit avoir lieu à l'extérieur de nos frontières. Je crois qu'il sera probablement le plus facile à trouver. Et puis à l'intérieur, car maintenant vont se greffer les intérêts économiques, un peu divergents, des pays européens. Car il peut y avoir là camouflage derrière la sécurité ou la sûreté d'intérêts économiques qu'il nous faut déterminer avec beaucoup de précision. Alors nous, Français, nous donnerons, il faut que nous puissions diffuser quotidiennement les mesures de contrôle qui sont effectuées en France, qui existent et qui sont fiables.
C'est vrai qu'en France, il y a un lobby pour le nucléaire. La France est un pays du tout nucléaire. Est-ce que vous engagez, monsieur le ministre, à donner vraiment toutes les informations dans ce domaine?
Oui, je souhaite même que cette cellule de coordination de l'information soit placée sous l'égide du ministère de l'Environnement, qui est là pour prévenir et pour protéger.
Merci Alain Carignon, merci de toutes ces explications.
Un bel exercice de langue de bois, vraiment dans les grandes largeurs. On rappelle qu'Alain Carignon, donc peu de temps après, a été ministre de la Communication sous Édouard Balladur, hein, qui était donc Premier ministre. Ça fait peur, effectivement. Et on voit avec quelle constance il évite absolument tous les sujets réellement qui fâchent, et surtout en expliquant, et ça c'est une constante dans le langage technocratique qu'on peut entendre régulièrement, en s'extasiant sur les moyens techniques qui sont déployés pour pouvoir gérer la catastrophe. On a eu ça beaucoup avec la catastrophe de l'Erika, où Total avait financé un film qui expliquait comment on faisait pour en quelque sorte dépolluer le site. récupérer ce qui pouvait être récupérable, et Total, sur un film qui durait 40 minutes, qui n'était pas autre chose qu'un film de propagande, expliquait que voilà, il mettait en place un système logistique extraordinaire, et qu'avec 17 hélicoptères, 17 stations de pompage, enfin bref, il y avait une espèce de joie et d'émerveillement devant la technicité. On rappelle comme juste qu'Alain Carignan ensuite a été condamné à 5 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et à 5 ans de à 400 000 francs d'amende à l'époque dans les années 90 pour des histoires de malversation et d'abus de
confiance,
d'abus de confiance, et même d'abus de pouvoir, tout simplement.
Il y avait une histoire d'eau, je crois.
Voilà, exactement, avec Lionel Desos. Enfin, on pourrait revenir, mais enfin, c'est pas le sujet. Enfin, mais ce qui est intéressant avec Alain Carignan, c'est que c'est l'homme politique français qui a passé le plus de temps en prison. Oui. Donc, ce qu'il a fait, c'est 4 années, il a été condamné à 5 ans, dont un avec sursis, il a fait ses 4 ans de prison. Et actuellement, jusqu'au mois de mai, il était conseiller officieux de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. Voilà.
Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce, juste dire 2 mots sur ce qu'on a entendu. J'ai beaucoup aimé, par contre j'ai un doute, je ne sais pas trop ce que c'est que l'information nucléaire, parce qu'il y a peut-être aussi des informations non nucléaires, parce qu'il a dit information nucléaire.
C'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
c'est une info qui explose, voilà. On peut dire. Mais enfin, c'est effectivement, comme tu disais, c'est un grand spécialiste de la langue de bois, mais comme tous les politiques, et je crois que vous êtes un petit peu assez confiant. Moi, je pense que les politiques n'ont même plus de pouvoir par rapport aux gros groupes.
Jenny, moi, tu voulais.
Hyper pas confiant. on fait pas du tout confiance. Je pense que c'est précisément ce qu'on est en train de dénoncer depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que gauche, droite, voilà, Europe ou autre continent, voilà, c'est lié à un système mondial qui est pas que économique, qui est politique, où effectivement les intérêts sont politiques, c'est se maintenir au pouvoir et permettre à ceux qui vont faire de l'argent de te maintenir au pouvoir et toi au pouvoir de leur permettre de se faire de l'argent. Enfin ouais, c'est du coup c'est un peu ce qu'on dénonce et en même temps l'idée c'est aussi de donner des arguments aux gens pour que justement on soit pas dans l'inertie où c'est où la sortie. Enfin l'idée c'est
aussi une spécialité française qui consiste à dire surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien, vraiment on gère la situation, d'ailleurs il n'y a même pas de situation, on est là, tout est bon, nos centrales sont sûres, rassurez-vous, tout va très très bien, c'est un incident mais c'est très léger, et c'est d'ailleurs assez effrayant de voir que finalement il y a eu des gouvernements, là on revient sur Tchernobyl, qui ont décidé quand même de prendre les devants en distribuant par exemple des pastilles d'iode à la population, ça s'est fait en Suisse, ça s'est fait en Allemagne, ça s'est fait en Autriche, je cherchais le mot, ça s'est très peu fait au Japon.
Oui.
Alors quand même 25 ans après, on n'a pas tiré les leçons. Et en France, ça ne s'est pas fait. C'est clair, il ne fallait pas
effrayer
les populations. Oui. Donc pas question de distribuer des pastilles d'iode, parce que ça serait reconnaître qu'il y a un problème. Et on en est vraiment là. Quoi.
Avec les pastilles d'iode, il y a un souci, parce qu'ils n'ont pas des stocks énormes. Les seuls stocks qu'ils ont, voilà, c'est des anciens stocks et elles ne sont plus du tout valides. Enfin,
ce qui est intéressant aussi, est de remarquer le progrès de la communication qu'il y a eu entre Tchernobyl et Fukushima. Sur Fukushima, on n'a tout simplement pas parlé de ce qui était en train de se passer. Tous les journalistes, le monde des médias français était focalisé sur New York, sur le Sofitel de New York et sur les prouesses de M. Strauss-Kahn. Et ils nous ont bassinés pendant un mois et demi, deux mois, sur cette histoire, surtout pour éviter de parler de ce qui s'est passé de l'autre côté, justement, du côté du Japon. Et il y a plein de médias qui avaient plein d'argent pour envoyer des journalistes sur place qui attendaient les déclarations de monsieur le procureur de New York, mais pas un journaliste pour aller du côté du Japon, de Fukushima, pour voir sur place ce qui se passait. Donc, ça a permis tout simplement d'éviter. Il y a eu un bruit énorme médiatique sur une autre question à côté pour divertir, comme on disait, ça rappelait un peu la définition que Castoriadis donnait des nouveaux philosophes et de monsieur Bernard Arie Lévy, les divertisseurs. Ils parlent à côté. Et c'était exactement un cas d'école. On a parlé à côté. Non seulement, mais on continue. Parce que l'accident de Fukushima n'est toujours pas terminé. C'est ça la question. Et on continue à faire semblant que le problème n'existe pas. La radioactivité qui a été rejetée par Fukushima est supérieure à celle rejetée par Tchernobyl, seulement ça s'est fait d'une façon échelonnée sur plus d'un an maintenant. Mais ça continue.
On peut même rajouter que l'accident de Tchernobyl n'est pas terminé non plus. Parce que le réacteur, il est encore là, le réacteur fondu, le cœur, il est encore là, il est recouvert de béton, de graphite, ils sont en train de dépenser des là on est plus en millions d'euros, on est en milliards d'euros, donc tout cet argent pour construire une espèce de caisson de confinement en différentes matières qui a déjà été construit, ils sont en train d'en faire un autre. Et effectivement, là on sort complètement de la notion humaine du temps pour rentrer. Alors je retombe sur mes pattes de science-fictionneux, mais sur des notions de temps qui sont littéralement inconcevables. Ils travaillent en Scandinavie actuellement sur une espèce de chambre construite à quelques centaines de mètres sous terre pour stocker justement des déchets extrêmement radioactifs qui sont à des degrés de radioactivité tels qu'ils doivent être confinés pendant plusieurs centaines de milliers d'années. C'est-à-dire quand même une bonne partie de l'histoire humaine, hein, voire plus que tout, dans des conditions a priori sûres. Et c'est un intéressant cas d'école et disons projet pour les étudiants en graphisme, hein, parce qu'ils sont en train d'essayer de travailler sur des icônes qu'on peindrait sur les murs devant ce site pour empêcher les gens d'y entrer plus tard, parce que dans 100 000 ans, on ne sait pas du tout comment seront les gens, on ne sait pas du tout ce qui restera de la société.
Non, mais
et donc il faudrait qu'on ait des icônes suffisamment effrayantes. Et mais ils bossent sérieusement dessus. Enfin,
certains, c'est des millions d'années pour perdre.
En plus, oui, tout à
pour
fait.
Perdre que la moitié de la radioactivité. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore 100 millions d'années pour perdre la totalité. Voilà.
Oui, donc c'est ce qui est intéressant est de ne pas oublier, par exemple, que le centre d'enfouissement de Bure porte la signature de notre ancienne ministre de l'écologie, Madame Voynet,
oui.
Qui restera dans l'histoire et dans la poste
dans les annales, oui.
Pendant des millénaires comme celle qui a signé, comme celle qui a créé le centre d'enfouissement de Bure.
Oui, d'autant qu'à l'époque, il y avait une grande discussion sur le fait s'il fallait enfouir ou pas enfuir les déchets. Hein, donc, c'est intéressant de savoir ça quand même. Moi, j'ai pas la réponse, mais bon, maintenant. Oui. On va peut-être juste arrêter. À moins que tu veuilles dire un dernier mot sur
j'avais juste. J'avais juste envie de mettre en avant le fait que si les médias sont capables de pouvoir oublier Fukushima, c'est que les gens en France relèguent cette question-là à l'écologie. Et donc, je pense que en France, les gens sont pas très disposés à parler de questions qui sont des questions de société, mais qui effectivement se font par l'entrée de l'écologie. Donc là, je pense que le petit problème qu'on rencontre, c'est quand même de laisser ces questions-là aux écologistes ou de se référer à des associations comme Greenpeace, etc. Et donc, je pense que c'est important, justement. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est précisément que sans être expert et sans être écolo ou quoi que ce soit, on pense que c'est des questions qui nous concernent tous et qu'on doit pouvoir en débattre et justement forcer les médias éventuellement en justement imposant ces thématiques-là aussi. Hein. C'est nous aussi qui pouvons faire des choses en nous mobilisant.
En tout cas,
qu'il y ait des thématiques qui...
En tout cas, les politiques continuent dans le nucléaire. En tout cas, ceux qui le font sont des criminels et donc les criminels, on les met normalement en prison. Il faut libérer les prisons pour ceux qui ont commis des petites fautes ou voire et mettre ces gens-là à leur place. Je veux dire, c'est complètement criminel que de poursuivre. Pour continuer une énergie qui est en fait qui détruit la planète, la faune, la flore, l'humain, etc., etc. Donc on va peut-être s'arrêter sur le nucléaire parce qu'il y a encore d'autres sujets à traiter. Une petite pause musicale, voilà. Merci, Joël.
On ne mesurait pas la chance et le bonheur que nous avions de voir passer de gros avions sur nos têtes sans manigance. La 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 la.
Toujours dans l'émission Cause commune sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je m'étais pas présenté au début et Joël y tenait beaucoup. Alors moi c'est Cyril Zéro Hebdo qui l'a déjà présenté et puis aussi de l'émission Zoom Écologie qui, comme son nom l'indique, parle beaucoup d'actualités sportives. Et donc puisque tu disais tout à l'heure Gilles, tu parlais de prison. Bon alors moi je sais pas trop si la solution c'est forcément d'enfermer des gens. En tout cas, il y a eu un procès déjà sur Saint-Nazaire qui concernait donc deux personnes là le 28 août. C'était Sylvain Fresneau, donc un agriculteur président de l'ADK à Notre-Dame-des-Landes, donc qui est une association de défense des exploitants agricoles concernés par le projet d'aéroport. Donc lui, il était inculpé de violence sur les forces de l'ordre avec arme, l'arme étant un tracteur. Parce qu'en fait, il s'est reculé avec son tracteur, légèrement reculé avec son tracteur en s'interposant entre des manifestants et des flics qui étaient en train de gazer. Et donc, il a été inculpé de violence sur agent. Le tracteur a été saisi pendant 2 mois. Au passage, c'était un tracteur qui servait à plusieurs paysans puisqu'ils étaient en coopérative, en fin de compte. Il a été finalement restitué. Et donc, Sylvain Fresneau a pris hier le délibéré, 1 mois de prison avec sursis. Donc, il fait appel. Il y avait aussi un deuxième procès qui était celui de Clément, donc qui est un occupant de la ZAD, de la zone d'aménagement différé, donc zone à défendre aussi, qui est donc occupée par des gens qui squattent les terrains, qui ont des cabanes ou des camions qui occupent. Donc lui était aussi accusé de violence sur un gendarme. Alors il a été relaxé des faits de violence, mais a quand même pris 2 mois de prison avec sursis pour refus de prélèvement ADN. Voilà. Au niveau justice, hein, par rapport à ce que tu disais sur.
D'accord, mais bon, juste pour te répondre, je ne suis pas non plus pour enfermer des gens, c'est clair, c'est évident.
Personne.
Personne ne. Débat arrivé, là.
Personne. Non, c'est juste, c'est pas du tout par rapport à toi, Cyril, mais c'est vrai que les choses sont parfois mal dites parce que je les pense sur le coup, mais finalement, pas vraiment. Par contre, effectivement, on enferme, à l'heure actuelle, non pas ceux qui sont des criminels, mais ceux qui manifestent contre ces criminels. Et je trouve que cela, c'est le monde à l'envers, et donc c'est pour cette raison que cette émission existe, en tout cas ce soir. Voilà, c'était ce que je voulais préciser. Très bien, donc on pourrait peut-être maintenant, comme tu parlais de l'aéroport, voilà, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous avons sur ce plateau deux personnes, deux animateurs qui étaient sur place pour contester la mise en place de cet aéroport, enfin... Joël, tu y étais, en tout cas. Cyril aussi, je crois.
Quoi, tu contestais pas?
Et puis toi aussi, Virginie, tu y étais. Voilà. Ouais. Donc, j'aimerais un petit peu que, en quelques minutes, vous me racontiez un petit peu comment vous avez vécu cette affaire-là, sur place. Bah,
c'est vrai que cette question de l'aéroport, moi, j'aurais presque plus envie de l'inscrire dans des situations plus globales, parce que, bien sûr, c'est emblématique de la course effrénée à la productivité, la course à la compétition, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement le plus grand aéroport, la centrale nucléaire la plus puissante. On est dans une course, dans tout ça, une course très très effrénée. Bon là, effectivement, il y a une situation qui est quand même assez paradoxale, puisque c'est une ville qui a déjà un aéroport sous-exploité, et en même temps un deuxième aéroport qui à terme, déjà dans un premier temps, il y a 2000 hectares agricoles qui disparaissent, plus encore puisqu'après il y a un TGV, il y a tout ça qu'il faut amener. Mais tout ça rentre effectivement dans une course effrénée à la productivité, à la croissance, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire venir de plus en plus de gens, même si c'est au mépris effectivement d'où vivent les gens, parce que je crois qu'il faut partir de là aussi. Et pareil pour les centrales nucléaires, parce que dans tout cela, quand on construit effectivement, déjà on ne demande pas l'avis aux gens, parce qu'on dit oui, mais vous savez, ça a été fait, et puis les gens sont bien contents parce qu'ils peuvent prendre l'avion et tout ça. Moi, je crois que ça se voit pas comme ça, parce que du coup, dans toutes ces questions, c'est le mépris qu'on peut avoir pour ces populations, et aussi quelle vision on a pour le futur, puisque effectivement, c'est quoi aujourd'hui qu'on veut? Faut savoir que quand même 2000 hectares qui disparaissent, c'est énorme au niveau de l'alimentation. Je veux dire, quand on parle beaucoup effectivement du fait qu'il y a de la sous-alimentation, mais j'étendrai ça quand même à, où on le voit à d'autres niveaux aussi sur l'écologie, où effectivement pour nourrir nos voitures, le Brésil a quasiment décimé toute son alimentation parce que effectivement il fallait faire des cultures pour nourrir nos bagnoles, ce qui est quand même assez incohérent. Et là effectivement on est sur ce même point, on est prêt à faire disparaître plus de 2000 hectares de culture pour effectivement faire rouler des avions et faire voler des avions. Et puis le côté assez sidérant, c'est que c'est des aéroports à haute qualité environnementale. Alors quand on voit un plan, c'est assez drôle, puisque, enfin drôle entre guillemets, c'est que effectivement, pour que ça soit environnemental, c'est que sur l'aéroport, il y a des espèces de pelouse sur l'aéroport. Donc effectivement, c'est du béton vert, voilà. Mais tout ça, voilà, pour moi, c'est pas déconnecté de ce qu'on a pu parler avant. C'est la course effrénée à la productivité, à la croissance sans fin, quoi.
C'est précisément pas déconnecté, puisqu'on le disait, justement, ça fait partie des grands projets. Justement, cet aéroport, je pense que c'est important de dire que cet aéroport, il avait déjà été en projet il y a 20 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est parfois dans un monde post-moderne. En réalité, on est finalement encore dans une continuité. On n'a pas vraiment rompu avec des projets qui étaient déjà là, en fait, qui font partie de ce monde moderne et qui s'accentuent. Et donc, en fait, cet aéroport, c'est pour faire valoir la région du Grand Ouest. Comme à Paris, on va avoir un Grand Paris. Et donc, en fait, le Grand Ouest, ça paraît loin à nous, les Parisiens. Sur Paris, il est en train de se passer le Grand Paris. Et on parle de consultation. C'est vrai qu'on consulte jamais les gens. En réalité, on les consulte et c'est précisément tout le vice. C'est-à-dire qu'on te fait croire qu'on te consulte, mais en fait, ce sont seulement... c'est purement des magots. C'est-à-dire qu'il y a des consultations sur le Grand Paris qui se font déjà depuis des années avec des invitations au Trocadéro, avec donc la possibilité de recevoir des milliers de personnes, ils font salle comble. Donc il y a beaucoup d'experts qui viennent et peu d'habitants parce que c'est en semaine, les gens travaillent, sont pas tous au chômage, même s'il y en a une grande partie. Mais donc en fait il y a très peu de gens qui réellement peuvent avoir une emprise, mais pourtant il y a des consultations qui sont organisées. Donc c'est justement tout rempli de mensonges et de manipulations. Et donc moi j'invite les gens de Paris, de la région parisienne, à éventuellement se mobiliser à leur façon. Peut-être qu'ils s'y retrouveront pas dans l'association qui est organisée contre le Grand Paris, puisque en fait moi je pense qu'on peut lutter de différentes façons avec différents modes. Par contre, c'est intéressant de se pencher sur la question, parce que le Grand Paris, voilà, c'est une façon aussi de détruire tout ce qu'il y a tout autour avec le projet d'une station de RER dans plein champ pour un Auchan, un supermarché. C'est-à-dire que les gens, ils vont aller en balade au supermarché, c'est ce qu'on nous propose, quoi.
Génial.
Donc voilà, ouais. C'est, je pense que tous ces grands projets te racontent la vie qui ouais. nous propose. Et
alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est la logique qui veut faire, qui construit en fait un aéroport à Nantes. Là, je reviens sur Nantes, hein, alors qu'il y en a déjà un qui fonctionne qu'à moitié de sa capacité.
International. L'objectif ouais. étant qu'il soit international, ah, celui-là.
Il est pas international.
Non, parce
d'accord.
que par rapport au courant, etc. D'accord. Il y a un moment où il faut pouvoir accueillir, justement, pour devenir un Grand Ouest et pour peser en Europe, il faut aussi pouvoir accueillir et donc
Ah oui, d'accord.
Donc ils ont de toute façon énormément d'arguments hein, sur.
D'où son utilité alors, a priori.
Ben voilà, dans leur monde à eux, dans leur monde à eux, ils ont plein d'arguments.
Oui, parce que les experts ont prévu qu'il y aurait des flux de trafic et de circulation que le commandementel ne peut pas connaître. C'est la même chose qui fait que la ligne à très grande vitesse, oui. la TAV, comme les appellent nos voisins italiens, prévoit un doublement, un triplement du trafic sur Turin, au même moment et dans les mêmes années où la circulation n'a fait que baisser, la circulation notamment de marchandises s'est réduite d'une façon extrêmement importante. Si vous essayez de prendre un train sur l'Italie, vous apercevez qu'ils ont supprimé la plupart des trains qui marchaient il y a encore quelques années de façon relativement efficace, justement sur cette ligne. Et mais si vous allez regarder par exemple les chiffres de ce qui était prévu, de l'argent qui est dépensé sur cette ligne. Là, je regardais aujourd'hui. En 2004, on prévoyait 38 milliards et des poussières, qui étaient déjà passés à 52,6 en 2007. Entre-temps, je crois qu'ils ont encore augmenté. Et évidemment, qui est qui va se mettre cet argent dans les poches? C'est pas les habitants du coin.
C'est Bouygues.
Évidemment. C'est Bouygues. C'est ou l'équivalent du Bouygues italien.
C'est ça, oui, pas Bouygues italien, bien sûr.
Qui seront équivalablement, équitablement répartis entre les coopératives contrôlé par le Parti démocrate, autrefois c'était le PC, et de l'autre côté, bah, les grands constructeurs, les grands bétonneurs italiens. Et c'est qu'on constate, au même moment où on fait beaucoup de grands discours contre la criminalité, et que, comme on joue évidemment sur la sous-traitance, ce sont souvent des entreprises contrôlées dans différentes familles plus ou moins mafieuses, qui empochent énormément d'argent. C'est ce qui permet... aussi la continuation de la lutte contre la mafia avec des grandes déclarations sur l'honnêteté, sur la nécessité de faire les choses proprement et le fait de mettre de plus en plus de lois qui sont censées faire barrage et qui en réalité servent pour pourrir la vie du commun des mortels, parce que comme vous savez il y a quelques mois on a imposé aux petits retraités d'avoir un compte courant bancaire ou postal pour que leur retraite de 400 ou 500 euros soit créditée sur un compte courant, parce que ça se termine enfin ce passage d'argent de la main à la main, et justement à cause de la nécessaire moralisation pour éviter que la mafia puisse s'approprier des 400 euros qu'on donnait aux retraités. Tandis que, bon, sur ces sommes plutôt conséquentes et rondelettes, bah, là, on ne sait pas comment, mais elles arrivent quand même à circuler. Et ça, c'est un élément qu'il faut jamais perdre de vue. Parce que c'est pas la logique de la société. C'est la logique d'un certain nombre de classes sociales, de décideurs, qui se passent de l'argent ou qui font bénéficier leurs amis, leurs affidés, leurs... Bon, je pense pas évidemment...
Donc tu veux dire par là que c'est l'enrichissement d'un clan ou d'une personne qui prime sur l'intérêt...
D'une façon plus générale, oui. Je dirais d'une classe sociale.
Une classe sociale, d'accord.
Pas simplement les gens qui fréquentent les Fouquet's.
D'accord.
C'est un milieu un peu plus large, d'autant plus que ça se passe au niveau européen. C'est les grands axes routiers et ou ferroviaires au niveau européen dont on nous a bassiné sur la nécessité absolue, c'est au niveau européen. Ça se fait, ça se décide à des niveaux où le commun des mortels n'a pas son mot à dire. Et ce qui est intéressant, je m'excuse si je suis un peu trop long.
Non, mais vas-y.
Ce qui est intéressant, et quand on commence à s'intéresser à ce genre de problème du point de vue du commun des mortels, on tire un tout petit peu le fil parce qu'on on a un peu plus d'informations et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la tête de tout le monde. Je fais un autre exemple. La question de l'usine Tembe, trim mécanobiologique, méthanisation, dont la construction est prévue sur le territoire de Romainville. Les riverains se sont aperçus de cette chose l'année dernière quand ils ont vu pousser les panneaux qui annonçaient la mise en place d'un chantier. Bon, ils se sont concertés, organisés, ils ont constitué une association, ils ont commencé à la fois à s'informer sur les dégâts possibles d'une usine de ce type-là, construite en milieu urbain relativement dense, plutôt que au milieu de la campagne, et avec les risques d'explosion qui existent, avec les nuisances qui existent dans toutes les usines de méthanisation qui existent en Europe. Et ils ont enfin compris qu'il y avait un groupe privé, Urbaser pour ne pas les nommer, qui était censé construire et faire fonctionner cette usine. Qu'est-ce qui se passe? On a vendu aux décideurs locaux du secteur et de l'agglomération Est Ensemble, un projet magnifique, je dirais presque magique, pour résoudre les problèmes des déchets. On leur a fait miroiter la possibilité d'éviter que les déchets soient incinérés ou mis en décharge, comme ça se fait aujourd'hui. Et surtout, sans faire du tri à la source. Donc, sans corresponsabiliser les gens dans la gestion de leurs propres déchets. C'était vraiment de la magie.
Oui, c'est formidable, effectivement.
Et au point que même des élus verts sont tombés dans les panneaux. Les riverains se sont renseignés, ont commencé à informer la population et les élus aussi. Et une partie d'entre eux a commencé à réagir d'une façon un peu plus sensée. Par exemple, il y a le conseil municipal de Romainville qui a fait un vœu l'année dernière en disant qu'ils étaient contre ce truc-là, mais les choses sont déjà allées de l'avant. Il y a eu un moratoire parce qu'il commençait à y avoir quand même des réactions et moratoire qui arrivera à échéance. Et entre-temps, on s'est aperçu qu'il y avait des tas de choses qui n'étaient pas à la hauteur du commun des mortels parce que ça se décide beaucoup plus haut sur notre tête. Par exemple, la question des normes. L'usine de TMB méthanisation est censée produire du compost, hein, cette bouillie infecte qui sortira est censée être du compost qui a été proposé à des agriculteurs, aux chambres d'agriculture de l'Eure et de l'Île-de-France. Lesquels ont dit non, 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 nous on n'en veut pas, c'est une saloperie innommable qui va polluer nos sols. Donc, forcément, ils seront obligés de la remettre exactement comme aujourd'hui à la décharge et à l'incinération, parce que personne n'en veut. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui permet de définir compost cette bouillie bizarre est la norme française, qui est beaucoup moins restrictive que la norme européenne qui définit le terme compost au niveau européen. Alors, cette norme est sujette aujourd'hui à une révision plus ou moins périodique, et il y a un déchaînement des lobbies de constructeurs de ce genre d'usines déchaînés au niveau européen pour faire en sorte que ceux qui s'occupent de la définition de la norme se rallient à la largesse, à la souplesse de la norme française pour qu'ils puissent continuer à fabriquer leurs choses horribles et à les imposer aux populations. Et ce qui est intéressant est que ce genre de choses va détruire toute possibilité de faire du tri à la source. Donc de responsabilité, les gens directement concernés. Parce que si tu as un tapis et un tapis roulant, un truc mécanobiologique qui résout les problèmes de tri, à quoi bon s'embarquer dans un truc énorme à l'échelle d'une agglomération comme est ensemble, avec tous les problèmes d'organisation qui existent?
Mais comment ils peuvent proposer un compost qui n'est pas du compost? C'est ça que je comprends pas.
Il est, disent-ils, bon, ça restera à voir, mais disent-ils, et on verra dans l'audit qui doit être fait, conforme à la norme. Or, les normes sont en train d'évoluer, elles devraient devenir un peu plus restrictives, mais comme de par hasard, cette question d'usine et de TMB méthanisation a été exclue de la grande réunion qu'il y aura ces jours, les prochains jours, de concertation sur les problèmes environnementaux. Ça, c'est la question des déchets, en fait, disparaît par un tour de passe-passe.
Oui, parce que je voulais simplement dire que le compost, pour les gens qui ne savent pas, c'est que du déchet, que des choses qui peuvent se manger ou qui retournent.
Oui,
c'est pas du tout du plastique ni quoi que ce soit, c'est impossible.
Ni donc, de l'eau de Javel, ni des éléments polluants. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs ne veulent pas de ce genre de saloperie.
On peut rebondir peut-être deux secondes sur la notion de norme, justement. Mmh. C'est très intéressant de voir que voilà, la norme, ça stipule précisément avec une barrière infranchissable ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Et dans le cas de Fukushima, vous savez, on avait des normes en matière de mesure de radiation qui étaient bien particulières, qui étaient à un certain niveau, au-delà desquelles on considérait que les radiations étaient, oui, dangereuses pour l'homme. Et bien, le gouvernement japonais s'est contenté tout simplement de monter cette norme. Et en fait, c'est magique parce que, par un tour de magie merveilleux, eh bien, du jour au lendemain, les radiations qui hier étaient dangereuses, eh bien, aujourd'hui ne sont plus dangereuses du tout. Et ça, c'est vraiment formidable.
T'as oublié de dire que le moratoire a été que de 6 mois. Hein.
En plus.
Il y a peut-être aussi quand même, par rapport à ce que disait Gianni au début, sur l'Italie et sur Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi les formes de lutte qui se mettent en place. Parce qu'on pourrait dire comme ça, Ouais, bon, bah, voilà, c'est inévitable. On n'a plus qu'à attendre la fin des haricots. Mais moi, je pense qu'en Italie, il y a quand même une mobilisation très très forte sur le Notav, hein, parce que bon, jusqu'à où effectivement, c'est quasiment un camp, un chantier, j'allais dire, qui est militarisé, hein, donc ce qui n'est pas rien. Une vallée entière. À Notre-Dame-des-Landes, effectivement, l'opposition est de plus en plus forte. Je parle pas de l'opposition de certains élus, parce que là, il y a beaucoup à dire, mais au niveau des agriculteurs qui ont compris aussi, parce que là, on a vu aussi un espèce de déplacement qui s'est fait. C'est-à-dire, au début, c'était l'idée effectivement de dire bon, on va expliquer par des accords, enfin des choses juridiques, que effectivement cet aéroport il est pas bien. Mais ils se sont aperçus aussi qu'ils se prenaient des coups sur la gueule. Donc, comme aussi les gens qui venaient s'installer, ben ils se sont aperçus aussi que on était plus fort aussi ensemble et que on ne pouvait pas que faire du juridique. Et des fois c'est là où ça pêche un petit peu les choses, c'est-à-dire que les associations qui se mettent aussi en place ne comptent que sur les aspects juridiques pour faire reculer les choses. Alors on les fait reculer un petit peu comme ça, mais ça suffit pas. C'est effectivement en parallèle, et je dirais même au-delà d'en parallèle, il n'y a pas une lutte aussi, un moment où tu te mets en position de dire nous on ne veut pas de cela parce que c'est vraiment nocif pour l'ensemble et qu'on se base seulement sur des arguties juridiques, on perd à la fin, on perd. Et là je crois que sur ces deux luttes, il y a un aspect juridique, mais surtout il y a un aspect de lutte très clair et humaine qui font que les choses puissent pour l'instant ne pas se faire.
Oui, mais Joël, il dit bien que les agriculteurs n'en veulent pas et ils s'arrêtent pas pour autant, hein.
Oui, mais en même temps, les luttes ne s'arrêtent pas non plus. L'exemple de la Val de Souza du Notav est justement l'exemple d'une lutte qui dure depuis 20 ans maintenant, avec oui. une vallée entière qui s'est révoltée par rapport à une militarisation du territoire qui a été effectuée, qui est, si on veut, parfaitement anticlassiste, mais qui touche l'ensemble de la population concernée. C'est l'ensemble d'une population dont on ne veut pas entendre l'avis.
Mais ce qui est très énervant dans cette histoire, c'est quand même qu'une fois que la décision politique a été prise, que les constructeurs ont commencé les travaux, pour faire reculer la chose, même quand on manifeste et quand c'est très compliqué, d'autant qu'en face de nous, il y a quand même le fric des grands constructeurs et puis des gens qui mettent l'argent dans le projet, les flics qui nous tabassent, etc., etc. Donc, on est tout seul. Même si on est nombreux, finalement, on est tout seul. Donc, il faut quand même que les choses s'arrêtent à un moment donné. Et quand je parlais tout à l'heure des criminels pour Fukushima, etc., j'en reviendrai à tout ça. Même si ça surprend beaucoup de gens quand je dis criminels, mais je persiste à le dire que ce sont des criminels et que ce sont des assassins qui c'est des crimes contre l'humanité, parce que c'est pas un japonais par ici et puis un français par là, c'est les japonais, c'est Laos, c'est le Vietnam, c'est la Chine, c'est etc., etc. Et c'est même tout le reste, même en France, la France, effectivement tu parlais tout à l'heure de la frontière qui arrêtait le nuage, évidemment qu'il n'y a pas eu de frontière. Ils sont malades, ces gens-là. Faut les arrêter, quoi.
En tous les cas, moi, je pense que là où on peut quand même considérer que, quand bien même, ils sont très forts puisqu'ils arrivent à nous imposer tous ces projets, ils continuent et ils sont très forts puisque les projets sont là. Toutefois, ils sont obligés d'implanter ces projets par la police, les militaires ou la répression. Moi, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ils sont faibles en vérité. C'est-à-dire que s'ils ont quand même peur des gens et que les gens, s'ils s'organisent, il y a un moment, ils peuvent contrer. Nous, en France, on n'est peut-être pas si organisés que, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Amérique latine ou du Mexique, Amérique centrale. Je pense qu'il y a quand même une capacité de ces gens à pouvoir s'organiser parce qu'ils ont été en lutte et ils n'ont pas perdu le lien social. Donc je pense qu'il faut se resserrer.
Oui, tu pourrais peut-être nous dire ce que tu nous as dit hors micro tout à l'heure par rapport justement aux gens qui ont essayé de faire des choses et qui ont été arrêtés, mais c'est pas les bons qui ont été arrêtés.
Oui, justement, et je viens de recevoir l'information qu'il y a 5 prisonniers politiques mapuche qui défendaient leur environnement, leur terre, et se sont fait condamner par 10 ans de prison. Et actuellement, ils sont en grève de la faim, et c'est son 19e jour de grève de la faim. Ils veulent rester jusqu'à les dernières conséquences pour qu'ils soient reconnus leur territoire, c'est pas pour eux. Ils, Et eux, ils réclament leur territoire.
Et ils ont été condamnés pour quelles raisons? Ils ont été condamnés pour quelles raisons?
Et pour occupation de terrain, des territoires, et, qui appartient, oui, qui appartient.
10 ans pour ça? Oui, voilà. Non, mais enfin, c'est hallucinant. Hallucinant, franchement. Ok. Oui, tu voulais. On n'a pas eu le temps de parler de. On n'a pas eu le temps de parler du gaz de schiste. Ce sera pour une prochaine émission. De toute façon, cette émission se termine.
Je rappelle que la première manche sur le gaz de schiste a été victorieuse pour les gens qui se sont mobilisés.
C'est exact.
Il faut surtout continuer à se mobiliser. Il n'y a pas de possibilité de recours. Surtout quand il s'agit de la mobilisation des populations directement concernées.
Donc, pour cela, il y a une mobilisation le 22 septembre, donc ce samedi 22 septembre, un peu partout en France, mais vous retrouvez tout ça sur des sites.
Voilà, donc merci à tous d'avoir fait cette émission. Merci à tous d'avoir fait cette émission. Merci, chers auditeurs, de l'avoir entendu. Cette émission se termine. Je laisse la place à Zoom Écologie pour la suite. Ne vous endormez pas, ça va être très intéressant. Merci à tous et à la prochaine fois. Ciao.
La lucha sigue.